Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 4, chapitre 15. Sommaire. Les systèmes antérieurs n'ont pas éclairci suffisamment la question du temps. On a confondu bien souvent le mouvement et le temps. Profonde différence du temps et du mouvement. On ne peut les identifier puisque c'est le temps qui mesure le mouvement. Paragraphe 1. Qu'est-ce que le temps? Quelle est sa nature véritable? C'est ce qui reste également obscur, soit d'après les systèmes qui sont venus jusqu'à nous, soit d'après les considérations que nous avons nous-mêmes antérieurement présentées. Paragraphe 2. Les uns ont prétendu que le temps est le mouvement de l'univers. Les autres en ont fait la sphère même du monde. Paragraphe 3. Bien qu'une partie de la révolution circulaire soit une portion du temps, la révolution n'est pas le temps pour cela. La portion du temps que l'on considère n'est qu'une partie de la révolution. Mais encore une fois, ce n'est pas la révolution même. Paragraphe 4. En outre, s'il y avait plus d'un ciel, le temps serait de même le mouvement de chacun de ses cieux, et par conséquent, il y aurait plusieurs temps à la fois. Paragraphe 5. Ce qui fait qu'on a pu confondre le temps avec la sphère du monde, c'est que toutes choses, sans aucune exception, sont dans le temps et qu'elles sont toutes aussi dans la sphère universelle. Du reste, cette assertion par trop naïve ne mérite pas qu'on examine les impossibilités qu'elle renferme. Paragraphe 6. Mais comme le temps semble être avant tout un mouvement et un changement d'une certaine espèce. C'est là ce qu'il faut étudier. Le mouvement et le changement de chaque chose est ou exclusivement dans la chose qui change, ou bien dans le lieu où se trouve la chose qui change et se meut. Mais le temps est égal, et partout et pour tout, sans exception. Paragraphe 7. Ajoutons que tout changement, tout mouvement est ou plus rapide ou plus lent, mais le temps n'est ni l'un ni l'autre. Le lent et le rapide se déterminent par le temps écoulé. Rapide, c'est ce qui fait un grand mouvement en peu de temps. Lent, c'est ce qui fait un faible mouvement en beaucoup de temps. Mais le temps ne se mesure et ne se détermine pas par le temps, ni en quantité, ni en qualité. Ceci suffit pour faire voir clairement que le temps n'est pas un mouvement. D'ailleurs, nous ne mettons pour le moment aucune différence entre ces deux mots de mouvement ou de changement. Chapitre 16. De la nature du temps. Nous ne percevons réellement la durée que par les modifications successives de notre âme. Il n'y a de temps pour nous qu'à la condition du mouvement. Le temps ne se confond pas avec le mouvement, mais il est un des éléments du mouvement. Antériorité et postériorité dans le mouvement et dans le temps. Définition du temps. Le temps est une sorte de nombre. Paragraphe 1. Nous convenons cependant que le temps ne peut exister sans changement, car nous-mêmes, lorsque nous n'éprouvons aucun changement dans notre pensée, ou que le changement qui s'y passe nous échappe, nous croyons qu'il n'y a point eu de temps écoulé. Pas plus qu'il n'y en a pour ces hommes dont on dit fabuleusement qu'ils dorment à Sardos auprès des héros, et qu'ils n'ont à leur réveil aucun sentiment du temps, parce qu'ils réunissent l'instant qui a précédé à l'instant qui suit, et n'en font qu'un par la suppression de tous les instants intermédiaires qu'ils n'ont pas perçus. Ainsi donc, de même qu'il n'y aurait pas de temps si l'instant n'était pas autre, et qu'il fût un seul et même instant, de même aussi quand on ne s'aperçoit pas qu'il est autre, il semble que tout l'intervalle n'est plus du temps. Mais si nous supprimons ainsi le temps, lorsque nous ne discernons aucun changement, et que notre âme semble demeurer dans un instant un et indivisible. Et si au contraire, lorsque nous sentons et discernons le changement, nous affirmons qu'il y a du temps découlé, il est évident que le temps n'existe pour nous qu'à la condition du mouvement et du changement. Ainsi, il est incontestable également et que le temps n'est pas le mouvement, et que sans le mouvement, le temps n'est pas possible. Paragraphe 2. C'est en partant de ce principe que nous saurons, puisque nous recherchons la nature du temps, ce qu'il est par rapport au mouvement. D'abord, nous percevons tout ensemble et le mouvement et le temps. Ainsi, l'on a beau être dans les ténèbres, et le corps a beau être dans une impassibilité complète, il suffit qu'il y ait quelque mouvement dans notre âme pour qu'aussitôt nous ayons la perception d'un certain temps écoulé. Réciproquement, dès l'instant qu'il semble qu'il y a du temps, il semble aussi du même coup qu'il y a eu mouvement. Par conséquent, de deux choses l'une, ou le temps est le mouvement, ou il est quelque chose du mouvement. Mais comme il n'est pas le mouvement, il faut qu'il en soit nécessairement quelque chose. Paragraphe 3. Comme tout corps en mouvement se meut toujours d'un point vers un autre point, et que toute grandeur est continue, le mouvement accompagne la grandeur. Or, c'est parce que la grandeur est continue que le mouvement est continu comme elle. Et le temps aussi n'est continu que par le mouvement. Car, selon que le mouvement est grand, autant de son côté, le temps semble toujours avoir de grandeur. Paragraphe 4. Sans doute, l'antériorité et la postériorité se rapportent primitivement au lieu, et dans le lieu, elles se distinguent par la situation. Mais comme dans la grandeur, il y a également antériorité et postériorité, il faut qu'il y ait aussi l'une et l'autre dans le mouvement, d'une manière analogue à ce qu'elles sont dans la grandeur. Or, dans le temps aussi, il y a antérieur et postérieur, parce que le temps et le mouvement se suivent toujours et sont corrélatifs entre eux. Paragraphe 5. Ainsi, l'antériorité et la postériorité du temps sont dans le mouvement, ce qui est bien aussi être du mouvement en quelque sorte. Mais leur manière d'être est différente, et ce n'est pas du mouvement à proprement parler. Paragraphe 6. C'est qu'en effet, nous ne connaissons réellement la portée. Paragraphe 6. C'est qu'en effet, nous ne connaissons réellement la durée qu'en déterminant le mouvement et en y distinguant l'antérieur et le postérieur. Et nous n'affirmons qu'il y a eu du temps découlé que quand nous avons la perception de l'antériorité et de la postériorité dans le mouvement. Or, cette détermination du mouvement n'est possible que si nous reconnaissons que ces deux choses diffèrent l'une de l'autre, et qu'il y a entre elles un intervalle différent d'elles. Quand nous pensons que les extrêmes sont autres que le milieu, et quand l'âme affirme deux instants, l'un antérieur et l'autre postérieur, alors aussi, nous disons que c'est là du temps, car ce qui est limité par l'instant semble être du temps, et c'est là la définition que nous en proposons. Lors donc que nous sentons l'instant actuel comme une unité, et qu'il ne peut nous apparaître ni comme antérieur ou postérieur dans le mouvement, ni, tout en restant identique, comme appartenant à quelque chose d'antérieur et de postérieur, il nous semble qu'il n'y a point eu de temps découlé, parce qu'il n'y a pas eu non plus de mouvement. Mais du moment qu'il y a antériorité et postériorité, nous affirmons qu'il y a du temps. Paragraphe 7. En effet, voici bien ce qu'est le temps, le nombre du mouvement par rapport à l'antérieur et au postérieur. Paragraphe 8. Ainsi donc, le temps n'est le mouvement qu'en tant que le mouvement est susceptible d'être évalué numériquement. Et la preuve, c'est que c'est par le nombre que nous jugeons du plus et du moins, et que c'est par le temps que nous jugeons que le mouvement est plus grand ou plus petit. Donc, le temps est une sorte de nombre. Paragraphe 9. Mais, comme le mot « nombre » peut se prendre en deux sens, puisque tout à la fois on appelle nombre et ce qui est nombre énumérable et ce par quoi l'on nombre, le temps et ce qui est nombré, et non ce par quoi nous nombrons, car il y a une différence entre ce qui nous sert à nombrer et ce qui est nombré. Chapitre 17. Sommaire. De l'instant. Identité et diversité constantes de l'instant. Idée qu'il faut s'en faire. Rapport de l'instant et du temps. On ne peut les concevoir l'un sans l'autre. C'est l'instant qui fait que le temps est continu et divisible, sans être d'ailleurs une partie du temps, il est au temps comme un point est à la ligne. Paragraphe 1. De même que le mouvement est perpétuellement autre. De même, le temps l'est ainsi que lui, bien que le temps dans son ensemble soit éternellement le même. Car l'instant d'à présent est identiquement le même que celui qui était auparavant, seulement son être est différent, et c'est l'instant qui mesure le temps en tant qu'il est antérieur ou postérieur. Paragraphe 2. Ainsi, en un sens, l'instant est le même, et en un autre sens, il n'est pas le même. En effet, il est autre en tant qu'il est dans un certain temps et dans un autre temps, et c'était là précisément la condition inévitable de l'instant. Mais en tant qu'il est ce qu'il était dans un temps donné, il est identique, car le mouvement, ainsi que je viens de le dire, suppose toujours la grandeur, et le temps, je le répète, suppose toujours aussi le mouvement. De même que le corps qui se meut, le mobile qui nous fait connaître le temps, et dans le temps l'antérieur et le postérieur, suppose aussi le point. Or, ce mobile est bien à un moment donné tout à fait le même, que ce soit d'ailleurs un point, une pierre ou telle autre chose, mais rationnellement il est différent. Cela, du reste, rappelle l'assertion des sophistes qui prétendent que Coriscus dans le lycée est autre que Coriscus dans la place publique. Et il faut reconnaître qu'il est autre, en ce sens qu'il est d'abord dans tel lieu, puis ensuite dans tel lieu différent. Mais l'instant est corrélatif au corps qui se meut, comme le temps est corrélatif au mouvement, puisque c'est par le corps qui se meut que nous percevons l'antérieur et le postérieur dans le mouvement, et que c'est en tant que l'antérieur et le postérieur sont susceptibles d'être nombrés que l'instant existe. C'est là, sans contredit, l'idée la plus claire que l'on puisse se faire du temps. On perçoit le mouvement par le corps qui se meut et le déplacement par le corps déplacé, car ce corps qui est déplacé est matériellement quelque chose de réel et de distinct, tandis que le mouvement lui-même ne l'est pas. Ainsi, ce qu'on appelle l'instant est en un sens toujours identique et le même, et en un autre sens il ne l'est pas, et il en est de même du corps qui se déplace. Paragraphe 3. Il est clair d'ailleurs que s'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait pas non plus d'instant, et réciproquement, s'il n'y avait point d'instant, il n'y aurait pas non plus de temps. Ils sont tous deux simultanés. Et de même que le déplacement et le corps déplacé sont simultanés, de même aussi, le nombre du corps déplacé et le nombre du déplacement sont simultanés également, car le temps et le nombre du déplacement et l'instant, ainsi que le corps déplacé, est en quelque sorte l'unité du nombre. Paragraphe 4. Il faut dire encore que c'est par l'instant que le temps est continu, et que c'est aussi par l'instant que le temps se divise. Du reste, cette propriété se retrouve dans le déplacement et le corps déplacé, car le mouvement est un, ainsi que le déplacement, pour le corps déplacé, parce que ce corps est un et n'est pas tel autre corps quelconque. Car alors, il pourrait y avoir une lacune dans le mouvement. Mais il est autre rationnellement, puisque c'est lui qui fixe et détermine l'antériorité et la postériorité du mouvement. Paragraphe 5. Cette propriété est aussi, à certains égards, celle du point, car le point tout à la fois continue la longueur et la termine. Il est le commencement de telle longueur et la fin de telle autre. Paragraphe 6. Mais lorsque l'on prend le point qui est un, de telle manière qu'on le considère comme s'il était deux, il faut nécessairement un temps d'arrêt, puisque le même point est à la fois commencement et fin. Quant à l'instant, il est toujours autre, parce que le corps qui se déplace se meut d'une manière continue. Paragraphe 7. Ainsi, le temps est un nombre, non comme étant le nombre d'un seul et même point, parce qu'il serait tout ensemble commencement et fin, mais bien plutôt comme étant les extrémités et non pas les parties d'une même ligne. On vient d'en expliquer la raison. C'est que le milieu de la ligne peut être considéré comme double, et qu'en ce point, le corps se trouvera nécessairement en repos. Mais il est clair en outre que l'instant n'est pas une portion du temps, pas plus que la division du mouvement n'est une partie du mouvement, pas plus que les points ne sont une partie de la ligne, tandis que les lignes, quand elles sont deux, sont des parties d'une même ligne unique. Paragraphe 8. Ainsi, en tant que l'instant est une limite, il n'est pas du temps, et il n'est qu'un simple accident du temps. Mais en tant qu'il sert à nombrer les choses, il est nombre, car les limites ne sont absolument qu'à la chose dont elles sont les limites. Tandis que le nombre, par exemple le nombre 10, qui sert à compter ces 10 chevaux qu'on regarde, peut tout aussi bien se retrouver ailleurs et compter autre chose.